Alors, c'est ce verset que nous méditons aujourd'hui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien, en lisant ces versets, on a presque l'impression que Dieu accomplit donc une prouesse chirurgicale, une greffe d'organes. Il remplace le cœur pierreux par un cœur de chair. Un cœur qui sera capable de suivre la voie de Dieu et de ne pas marcher dans la voie du malheur. Alors ce verset, nous venons de l'entendre, fait partie d'un texte du livre d'Ézéchiel qui est une promesse de restauration. Ceux qui ont vécu les souffrances de l'exil vont enfin revenir sur leur terre. Ils ne connaîtront plus la famine, ils seront purifiés, changés et renouvelés de l'intérieur, puisqu'un cœur nouveau et un souffle nouveau leur seront donnés. Ainsi, ils auront la capacité de discerner quelle est la bonne voie à suivre. Comment vivre, pourrait-on dire, un cœur à cœur avec Dieu salutaire. Alors, discerner la volonté de Dieu, l'écouter, suivre ses commandements, c'est une invitation récurrente dans les textes bibliques. L'être humain cherchera-t-il à être en accord avec celui qui lui a donné sa vie et des lois comme chemin de vie? Quel sera son choix? Et s'il est question ici, dans le texte d'Ézéchiel, du cœur, ce n'est pas anodin, car dans la Bible hébraïque, le cœur est le lieu du choix et du discernement. Le cœur est le lieu de l'intériorité où s'exerce la liberté de l'être humain. Et si pour nous aujourd'hui, le cœur est principalement le siège des sentiments, des émotions, dans la Bible, c'est aussi le siège de l'intelligence et de la pensée. Comme le résume bien Maurice Cocagnac dans son livre « Les symboles bibliques ». Maurice Cocagnac rappelle donc que le cœur ne se limite pas à la vie affective. Je le cite « Le cœur est pour la Bible une réalité plus vaste qui inclut toutes les formes de la vie intellective, les affects, les émotions et le domaine inconscient où s'enracinent toutes les activités de l'esprit. » Ainsi, donc Dieu chirurgien vient redonner à son peuple la capacité non seulement d'aimer et d'être sensible, mais aussi de penser et de faire des choix éclairés en matière d'éthique et de foi. Quant au souffle nouveau qui accompagne le don d'un nouveau cœur, ruach en hébreu, eh bien c'est la force vitale qui anime toute personne. C'est le souffle créateur et recréateur de Dieu qui vient en aide à celles et ceux qui veulent vivre en accord avec lui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle nouveau. Mais en quoi ces paroles peuvent-elles nous parler aujourd'hui? Comment recevoir cette promesse de renouvellement intérieur? Je vous propose de lire ces paroles de manière symbolique. Car elles peuvent concerner le monde intérieur de tout être humain. Elles sont la promesse d'une restauration, d'un passage de la pierre à la chair. On pourrait dire de la personne statifiée, paralysée, à la personne vivante, vibrante, sensible. Et puis, ces paroles peuvent aussi nous parler quand nous sommes touchés par la mort. On dit bien lors d'un grand deuil qu'on a parfois le cœur lourd comme une pierre. Le sang qui se glace. Et la tentation est là de se laisser fossiliser par le chagrin, comme hors du temps. De se laisser emprisonner par la douleur de la perte. On peut parfois avoir l'idée saugrenue mais si naturel, presque spontané, de se coucher sur la pierre tombale de l'être aimé dans un dernier geste d'amour. La grande douleur est parfois un peu folle. Mais n'a-t-on pas le droit pour un temps d'être fou, folle de douleur ? Quand on est amputé d'une part de soi, il y a toujours un moment où l'on sombre dans une douleur dingue. On est comme amputé à vif. Le deuil. En premier lieu, c'est l'expérience de l'absence d'un corps. Ce manque cruel d'une démarche unique, d'une peau, d'une odeur, d'une voix. Et c'est le corps de l'endeuillé qui absorbe en premier le choc. Fatigue, manifestation somatique, le corps de l'endeuillé parle. Il parle d'un arrachement. Alors comment traverser corps et âme cette épreuve ? Comment garder le cœur ouvert sans avoir peur qu'il se noie dans les larmes ou au contraire qu'il se dessèche sous la brûlure de l'absence ? Dans ce désert intime dont parle Georges Aldas, nous avons alors besoin des autres. De ces autres autour de nous vivants. Ces autres qui ne pourront jamais colmater la faille qui vient de se former en soi. Ces autres qui ne pourront jamais consoler l'inconsolable en soi. Cet inconsolable qui est l'empreinte de tout l'amour, de toute l'amitié partagée, quand il n'y avait pas encore à être consolé. Oui, personne ne pourra colmater un cœur brisé par l'absence. Par contre, il est possible de l'entourer de chaleur humaine. Il est possible, par sa seule présence, de soutenir un cœur souffrant, de l'encourager à battre encore, à honorer cette vie qui pulse encore en lui. Et la présence bienveillante des autres peut permettre de désencombrer pierre après pierre le seuil de la porte de l'avenir, cette porte scellée par les éboulis du deuil. Quand le deuil est effondrement, dislocation du temps, il n'y a parfois rien d'autre à faire que d'essayer déjà d'être présent à soi-même, de se raccrocher aux petits riens, aux habitudes, de manger sans appétit, de dormir sans se reposer, de faire comme si on était encore entier. Et les autres qui tiennent debout d'un seul tenant peuvent nous aider à garder le rythme, à faire semblant pour un temps à sauver les apparences. Car dans les grands deuils, il n'y a parfois que les apparences qui sauvent. S'accrocher à un sourire, à un vêtement fraîchement repassé, au maquillage qui donne bonne mine, à ses lunettes de soleil, se réfugier aussi derrière la politesse et l'élégance. Sauver les apparences pour se prémunir de son propre ravage intérieur et continuer à vivre avec les autres. Mais quand l'ivresse noire de la nostalgie menace, quand on titube de tristesse, comment ne pas s'effondrer dans la solitude ? Comment ne pas s'effondrer dans la solitude à l'épreuve du temps qui passe. Car après l'annonce de la mort, après le rite d'adieu, les amis se font parfois plus rares. Et l'on se demande, mais qui peut me comprendre ? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard. Qui saura que l'on traîne parfois encore son deuil comme un boulet alors que l'on est censé aller mieux ? L'injonction au bonheur semble tellement idiote quand surviennent les heures et les jours gris. Quand ça vous rattrape sans crier gare, parce qu'il suffit d'un objet du passé, d'une chanson, pour qu'affluent les souvenirs et la peine, cette lourde peine qu'il charrie. Mais que faire de cette peine qui colle à la peau ? Heureusement qu'il y a les oreilles amies. Les oreilles de celles et ceux qui savent et qui ne jugent pas. Et heureusement qu'il y a les mots. Les mots pour dire et les mots pour partager. Et les mots aussi de celles et ceux qui osent confier au papier leur désarroi. Les mots des écrivains qui, dans la description de leur histoire singulière, touchent à l'universel. Leurs mots nous touchent en plein cœur. Nous ne sommes plus seuls à l'intime de nous-mêmes. Et au cœur de la solitude, on se rend compte que oui, un cœur à cœur est encore possible avec un autre humain. Les jours de grande solitude, les écrivains peuvent habiter cette solitude et également ouvrir une voie nouvelle. Nous rappeler la possibilité de transformer l'expérience du deuil en autre chose que du tragique. Écrire l'histoire, la réécrire, donner du sens quand la souffrance menace de tout faire éclater. En faisant cela, les écrivains, en toute humilité, deviennent les témoins d'une traversée et d'une survie possible. Et si je vous parle aujourd'hui de ce que nous pourrions appeler les écrivains du deuil, c'est qu'à travers leur écriture, ils témoignent d'une chose essentielle. La sensibilité est une force. La véritable force n'est pas du côté de la pierre, de la carapace, du contrôle ou du refus des émotions et des pensées. La force véritable est du côté de la chair, du sensible, de ce qui bat, de ce qui pulse. La sensibilité est une force. Et ce matin, j'avais envie de vous partager quelques lectures, non pas pour vous faire une chronique littéraire en chair, mais pour partager avec vous des témoignages aussi sensibles que revigorants, dans leur capacité à faire quelque chose de l'épreuve du deuil. Et peut-être que l'un de ces ouvrages pourra devenir un ami, un compagnon pour vous. Les livres sont comme les personnes. Vous savez, il y a des rencontres dont on ne sort pas indemne pour notre bien. Alors, ces quelques livres que j'avais envie de partager avec vous, ces livres récents. Le premier est celui d'Olivia de Lamberterie. Elle est journaliste, elle est chroniqueuse littéraire et elle vient de recevoir le prix Renaudot pour ce livre « Avec toutes mes sympathies ». Elle y raconte comment son frère, de manière chronique, sombrait dans la dépression et ce jusqu'à se jeter du haut d'un pont. Et dans son récit, elle ne cache rien de la détresse qui s'emparait de son frère, rien non plus de sa propre détresse. Mais elle écrit aussi combien son frère était lumineux, intensément vivant. Et elle ne laisse pas le mot « suicide » clore son histoire, l'enfermer à jamais dans une fin tragique. En écrivant ce livre, elle le fait revivre dans sa mémoire et nous ouvre à cette dimension de l'être humain complexe. Un être qui ne se réduit jamais à sa souffrance ou à un diagnostic. Et étonnamment, l'image la plus prégnante qui reste de cet homme à la fin de la lecture de ce livre est celle de sa beauté, de son originalité et de sa joie de vivre aussi. L'horreur transmutée en beauté. Un autre livre, tout petit peu plus ancien, puisqu'il a été écrit en 2013 et traduit en 2015, est un livre de la romancière espagnole Rosa Montero. Et le titre est magnifique, « L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir ». Alors, elle parle dans ce livre de la manière dont Marie Curie a fait le deuil de son mari. Et Rosa Montero évoque aussi à cette occasion ses propres souvenirs, son propre deuil de l'homme tant aimé. Et dans ce livre étonnant et passionnant, elle prend à bras le corps cette question. Que signifie perdre son compagnon de vie, son amour? Elle parle du crève-cœur, de l'intimité perdue. Et elle dit aussi que nous sommes les reliquaires des gens que nous aimons. Nous les portons en nous. Nous sommes leur mémoire. Et puis elle a aussi des mots très forts pour exprimer la force de rédemption de l'art et de la littérature en particulier. Voici ce que dit Rosa Montero. La créativité est précisément ça, une tentative alchimique de transmuer la souffrance en beauté. L'art en général et la littérature en particulier sont des armes puissantes contre le mal et la douleur. Les romans ne les vainquent pas, ils sont invincibles, mais ils nous consolent de l'effroi. En premier lieu parce qu'ils nous unissent au reste de l'humanité. La littérature fait de nous une partie du tout et dans le tout, la douleur individuelle semble faire un peu moins mal. Mais le sortilège fonctionne aussi parce que lorsque la souffrance nous brise la colonne vertébrale, l'art parvient à transformer cette douleur, laide et sale, en quelque chose de beau. Alors, dans un autre livre moins foisonnant mais tout aussi beau, qui date de l'année dernière, Emmeline Landon raconte sa dernière année partagée avec son mari, mort sur l'île de leurs vacances, Marie Galante. Et donc Marie Galante est devenue le titre de ce livre écrit en sa mémoire. Récits et dialogues y alternent, souvenirs confiés au papier, et de ces lignes se dégage un sentiment d'éternité, comme si ce qui avait été partagé ne pouvait pas être corrompu, brisé par la mort et l'accident fatal. Et ce livre nous rappelle la puissance des mots et des souvenirs et la saveur inaliénable d'un amour profond. Autre ouvrage paru en 2018, celui de Jean-Philippe Domecq, qui est écrivain, et qui a écrit « L'ami, la mort, le fils ». Et dans ce livre, il parle de la mort accidentelle d'Anne Dufour-Mantel. C'était une philosophe, une psychanalyste. Anne Dufour-Mantel était son amie et elle est morte noyée dans la mer Méditerranée en sauvant la vie de son fils. Et vraiment, ces pages sont un hommage magnifique rendu à l'amie, à la femme, à l'intellectuelle. Et je voulais vous lire les dernières lignes qui sont une citation justement de l'amie, Anne Dufour-Mantel. Vous entendrez dans ces lignes un écho à notre verset. Quand c'est presque au-delà des forces, mais qu'il faut continuer encore, comme la levée de la nuit entre les pierres. Quand il faut continuer quand même, parce qu'au détour, là où c'est encore invisible, arrive quelque chose, cette chose qu'on appelle la grâce, l'inespéré, l'abandon de la peur, la traversée du deuil, l'inespéré, cet étrange espace humain qui se découvre quand tous les autres disparaissent, comme certains paysages à marée basse. Et puis pour finir, le premier roman publié chez Gallimard de Marion Muller-Collard. Alors Marion Muller-Collard emprunte, elle, ici, le chemin de la fiction. C'est un roman, elle a passé par cette épreuve. Pour interroger les liens de la filiation. Et dans le jour où la Durance, titre du livre, dans le jour où la Durance, elle raconte comment une femme affronte la mort de son fils de 37 ans, qui était lourdement handicapée, murée dans la paralysie et le silence. Et elle nous raconte qu'entre l'annonce de la mort et l'enterrement, en quelques jours, cette mère, cette femme, vit un raz de marée intérieure et travaille en elle la question de son attachement maternel, bien sûr, mais aussi celle de ses origines, de son lien à sa mère, de son lien à son père, à leur propre mort. Et voyez-vous, à l'occasion du deuil de son enfant, elle vit une forme de réconciliation avec elle-même, qui se manifeste dans la venue des larmes dont elle était privée, et qui sont le signe d'une libération intérieure profonde, un barrage à céder en elle. Et dans ce roman, on touche vraiment à la puissance de transformation du deuil. Alors toutes ces histoires sont bien sûr différentes les unes des autres. Aucun deuil ne ressemble à un autre. Chacun de ces deuils écorche le cœur, pourtant. Chacun de ces deuils fait porter le fardeau de l'inéluctable et de l'irrémédiable à celle ou celui qui le traverse. Et ces écrivains nous décrivent ainsi comment eux ou leurs personnages sont passés par là et comment ils ont pu à nouveau sentir le flux et le reflux de la vie en eux. Ces livres n'occultent pas la souffrance, mais ils témoignent d'une possibilité de la traverser, de la dépasser, d'en faire quelque chose de cette souffrance, au moins un livre. Et ils nous racontent comment ils ont fait cette traversée de la détresse au repos, pour reprendre les mots du psaume 116. Dans ce psaume, c'est bien Dieu qui fait du bien à l'âme. Comme c'est lui qui, dans le texte d'Ézéchiel, est capable de transformer les cœurs et de ranimer par son souffle. C'est Dieu qui agit dans nos textes ce matin, mais quand on a l'impression de porter à la place du cœur un morceau de la pierre tombale qui a écrasé les jours heureux, on peut sentir parfois l'absence de Dieu. Double peine, absence de l'être aimé, absence du Dieu aimé. Et dans ces moments-là, il y a un livre parmi tous les autres livres qui peut aussi faire du bien, la Bible. Ce livre qui nous dit que Dieu veille sur notre cœur de chair et qu'il soutient notre souffle par son souffle. Ce livre qui nous dit que Dieu est présent dans la traversée du malheur, même si on ne le ressent pas. Dans les moments de solitude et d'abandon, si notre cœur subit une anesthésie des sentiments, nous pouvons essayer de faire appel à l'intelligence de notre cœur et faire le choix de la foi, s'accrocher aux promesses de Dieu, choisir d'y croire, choisir de l'attendre de pied ferme. Et parfois, alors qu'on ne s'y attend pas, qu'on ne s'y attend plus, on peut faire l'expérience de la présence bienfaisante du souffle de Dieu. Il est possible que dans ces moments de chagrin, notre cœur devienne aussi plus sensible au domaine spirituel. Alors tout nous parle, le chant d'un oiseau, la forme d'un nuage, un simple mot, un simple verset. Et il arrive que nos sentiments de solitude s'évanouissent dans la conscience de l'amour de Dieu, que soudain tout s'allège et que la joie s'invite à nouveau. Alors il est possible de se sentir vibrant de vie, heureux, capable de s'emballer pour des broutilles, de sentir son cœur frapper à tout rompre sous le coup d'une émotion de joie intense. Et la douceur de vivre s'invite à nouveau sans crier gare. Le voile du deuil s'est déchiré à jamais. Un souffle nouveau nous est donné. Amen.